Matthieu chapitre 12, c'est un texte qui est pris par l'évangéliste Matthieu, qui est une citation directe de l'Ancien Testament, et une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus. Ce matin, je voudrais vous parler de ce thème, je n'ai pas choisi les chants au hasard, enfin, en particulier ce dernier, je voudrais vous parler du thème de l'espérance, et que Jésus est l'espoir des nations. Et nous avons besoin, dans les temps dans lesquels nous vivons, d'entendre une parole d'espoir, une parole même plus fort encore d'espérance. Alors Matthieu chapitre 12, verset 18, voici ce qu'il est écrit concernant Jésus. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Et regardez bien la dernière partie de ce verset. « Et les nations espéreront en son nom. » Amen. Je crois que ce n'est pas déformer la Bible que de dire que Jésus est l'espoir des nations. C'est traduire d'une manière autre le verset qu'on vient de lire. Jésus est l'espoir des nations. À plus forte raison, donc, Jésus est l'espoir de la France. Puisque la France fait partie des nations, et dans les temps dans lesquels elle vit, cette France qui est blessée, meurtrie, avec ces attentats qui se répètent et qui vont malheureusement se répéter, je ne fais pas une prophétie particulière, mais c'est une triste réalité des choses, ça risque de se reproduire. Dans ces temps particuliers, nous avons besoin de recevoir de la part de Dieu une parole d'espoir. Parce que si on cherche, malheureusement je ne veux pas faire de politique ce matin, mais si on cherche parmi le discours des hommes politiques, c'est pas comme ça qu'on va trouver l'espoir. Quand on voit qu'ils se déchirent les uns les autres, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, mais hein, le Seigneur Jésus est celui qui veut nous apporter l'espoir et même plus fort encore l'espérance. Aujourd'hui, nous avons besoin de recevoir au travers de la parole de Dieu une parole d'espérance. Et ce qui est particulier quand on lit les évangiles, c'est qu'il y a des mots qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Et pourtant, c'est une idée qui est là, l'idée de l'espoir. Le mot espoir n'apparaît nulle part dans l'évangile. Dans les quatre évangiles, aucun n'a employé le mot espoir. Dans les paroles de Jésus, aucune fois il a parlé de l'espoir. Vous avez déjà remarqué ça? Il a parlé de l'espérance, mais quand on regarde dans quel contexte il en a parlé, c'est plutôt pour dire qu'il y avait des fausses espérances. Je vous donne cet exemple. Quand il parle avec les pharisiens, il vient d'accomplir un miracle. Et les pharisiens, ils sont là et ils remettent en question l'autorité de Jésus, ils remettent en question qu'il vient de la part de Dieu. Et Jésus leur dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. L'espérance dans un homme, hein, et ça veut dire l'espérance dans la loi, l'espérance dans la religion morte. Il y a une bonne religion dont nous parle la parole, mais il y a aussi une mauvaise religion. Cette religion où on s'attache seulement aux ordonnances, on s'attache seulement à faire le bien, à ne pas faire le mal, et on n'a aucune communion avec Dieu. On n'a pas de vie spirituelle avec le Seigneur. Ça ne sert strictement à rien. Et Jésus est en train de leur dire, votre espérance, elle est en un homme, et mais au jour du jugement, ce sera Moïse lui-même qui viendra vous accuser. Comme quoi vous n'avez pas compris que toute la loi ne fait que parler d'une personne, de Jésus. Elle ne fait que parler de moi, disait le Seigneur. Et ces hommes avaient besoin d'entendre ces paroles. Pourtant, c'est la seule fois où Jésus a dit espérance. Le mot espérer, ben on l'a lu, on en a lu une portion. Les nations espéreront en son nom. Et ça apparaît sinon que trois fois. Luc chapitre 6 verset 34, il dit « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quel gré, vous en saura-t-on ». Vous connaissez ces passages? Est-ce que ça veut dire que quand on prête à quelqu'un de l'argent, il ne faut pas lui courir après pour qu'il nous rembourse? Est-ce que ça veut dire ça? Il faut prêter et puis on ne s'en occupe plus. Et tant pis si la personne n'est pas sérieuse, tant pis si la personne fait n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Voilà, j'ai un problème avec une personne qui se dit chrétienne, à qui j'ai prêté de l'argent et qui m'avait promis qu'elle allait me rembourser. » Et finalement, ça fait des années que je lui cours après pour qu'elle me rembourse et elle ne veut pas le faire. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a dans la Bible un verset qui nous montre qu'il faut être sérieux avec les dettes? Est-ce qu'il y en a dans la Bible de ces versets? Ben, je vous donne cet exemple dans Romains chapitre 13, verset 8. Il est dit littéralement « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Si vous avez une dette, ça peut arriver qu'on ait des coups durs, ça peut arriver qu'on fasse appel à un frère, à une sœur, et qu'ils viennent nous aider dans ces moments-là. Mais si on s'est engagé à lui rembourser, si de lui-même il n'a pas choisi de nous le donner, mais de nous le prêter, alors on a une dette. Et c'est normal, et c'est sérieux, et c'est devant Dieu, c'est quelque chose de bien, de pouvoir lui rembourser la chose. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Que le Seigneur nous aide à être dans ces choses concrètes de la vie, à être sérieux, parce que c'est des choses qui peuvent couper la faveur de Dieu sur notre vie. Et je connais quelqu'un dans une église, je ne citerai pas laquelle, mais qui, dans les coups durs, il a demandé à l'un, et puis il a demandé à l'autre, et puis il a demandé à une autre personne, tant et si bien qu'à un moment donné, il avait au moins une vingtaine de personnes dans l'église à qui il avait demandé, sans bien sûr le dire aux autres. Mais le pasteur en a entendu parler. Et cet homme, quand il allait à l'église, il avait la honte jusqu'au moment où il a plus voulu y aller parce qu'il était tellement honteux qu'il avait jamais remboursé toutes ces personnes. Et ça s'est levé à des milliers d'euros. Dans des églises. On a l'impression des fois que c'est que dans le monde qu'on trouve ça. Et même dans les églises. Mes frères et sœurs, si nous voulons être sérieux, alors ne mettons pas notre espérance dans les richesses. Mais ce passage, ça veut dire que la foi sans espérance, c'est quand on prête, pas pour aider, mais de manière calculée. Voilà, je lui prête de l'argent, mais je veux encore retour, il me fasse ceci ou cela. Ça, c'est pas bon. C'est ça que le Seigneur remet en question. Et bien sûr que nous avons intérêt à être des frères et des sœurs pour ceux qui sont autour de nous et qui sont dans le besoin. En tout cas, voilà des fausses espérances. L'esprit religieux est une fausse espérance. La richesse en elle-même est une fausse espérance. Si nous la faisons passer en premier devant Dieu, le jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur ne lui a pas dit 10 000 commandements. Tous les commandements qu'il lui a cités, il les faisait déjà. Mais quand il lui a dit une chose, une petite chose, cet homme est reparti tout triste. Pourtant, il était devant le Seigneur. Est-ce que vous acceptez qu'il vous dise même une petite chose, mais qui pointe du doigt dans votre cœur ce qui ne va pas? Si nous sommes sérieux, si nous sommes vrais, alors on sait que c'est bon pour nous. Et on va dire, oui Seigneur, je veux le faire. Je veux pas me confier dans ces choses-là, mais je veux me confier en toi. Hérode, quand il a vu Jésus, il espérait qu'il le voit faire un miracle. On a des personnes aussi qui viennent des fois dans les églises seulement pour voir du miraculeux, pour voir des guérisons. Est-ce que ça, on a le droit de voir des guérisons? Est-ce que c'est un péché? Bien sûr que non. Le Seigneur est celui qui guérit. Ils annonceront la parole sera prêchée, elle sera confirmée par des miracles et des guérisons. Mais si notre but, ce n'est que de voir le miraculeux sans engager notre cœur, et c'était exactement le cas d'Hérode, eh bien, ça ne sert à rien. C'est une fausse espérance. C'est pas parce qu'on voit un miracle qu'on va être sauvé. Il y a des centaines et des milliers même de gens qui ont vu des miracles. Même au temps de Jésus qui était là, qui voyait tous les miracles que le Seigneur faisait, et qui pourtant aujourd'hui sont en enfer, parce qu'ils n'ont pas laissé la parole faire son œuvre dans leur cœur. Ils ont eu cette fausse espérance, l'espérance dans le miraculeux, l'espérance aussi dans la délivrance politique. Je le disais tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que la délivrance va venir du monde politique? Bien sûr que non. Les uns peuvent essayer de faire certaines choses, d'autres de faire encore mieux, mais ils n'arriveront jamais à rétablir la paix que seul le Seigneur Jésus va pouvoir rétablir. C'est pour cela qu'il est appelé l'espoir des nations. Les disciples d'Emmaüs se promenaient sur le chemin et puis ils disaient « Nous espérions que ce soit lui, Jésus, qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce soit lui qui nous enlèverait tous ces Romains qui sont là, qui nous asservissent et qu'enfin on serait dans la liberté. » Et il y a des espérances comme ça que l'on a qui sont pas bonnes, mais le Seigneur est celui qui veut nous parler d'espérance. Pourquoi est-ce que Jésus est silencieux par rapport à ce mot de l'espérance et de l'espoir dans les évangiles? Tout simplement parce que Jésus, c'est pas un politicien. Jésus, il sait très bien que pour pouvoir procurer l'espoir aux gens, il faut pas parler d'espoir. Il faut pas faire des promesses par rapport à l'espoir. Mais il faut donner des convictions qui permettent que l'espoir jaillisse dans le cœur. C'est plus vous parlez d'espoir, c'est pas ça qui va faire que l'espoir jaillit dans le cœur. Imaginez que vous êtes dans un grand centre commercial à Toulouse et que vous avez perdu votre enfant, ça fait une heure que vous le cherchez partout dans tous les rayons et vous êtes arrivé à un stade où vous êtes totalement affolé, toutes sortes d'idées qui passent dans votre tête, est-ce qu'il s'est fait enlever, est-ce que ceci, est-ce que cela, vous êtes totalement désespéré. Puis il y a deux personnes qui viennent vous voir. La première, elle vous dit « Ne vous en faites pas ». Gardez l'espoir. Je vous promets qu'on va le retrouver, votre enfant. La deuxième personne, elle arrive et elle vous dit, ne vous en faites pas. On l'a retrouvé et je vais vous amener vers lui. Quelle parole donne l'espoir et quelle parole donne l'espérance? La première donne l'espoir. C'est encourageant quand on voit quelqu'un qui veut nous aider à chercher. Mais la deuxième, c'est une conviction qu'on sait qu'il a été retrouvé. Et l'espérance est une conviction. Quelqu'un a dit, pour comparer l'espoir et l'espérance, que l'espérance, c'est un espoir plein d'assurance. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'assurance pour pouvoir retrouver l'espoir dans notre cœur, pour pouvoir marcher avec le cœur plein de conviction, pour pouvoir marcher de manière solide, de manière ferme, et ne pas broncher dans les situations ténébreuses que nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a un terme dans la Bible qui est synonyme d'espoir et que l'on trouve celui-là dans les évangiles, c'est quand les personnes ils s'attendaient. Alors on va lire quelques passages. Luc chapitre 2, on va voir deux personnes qui attendaient le Seigneur Jésus et qui l'ont exprimé de manière différente. Luc chapitre 2 verset 25, il s'agit de Siméon et de Anne. Voici ce qu'il est dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. » Vous avez vu cet homme, ce à quoi il s'attendait? Il attendait la consolation. Et laissez-moi vous dire que si vous voulez que l'espérance jaillisse dans votre cœur, vous avez intérêt à attendre, comme Siméon l'a exprimé, la consolation qui vient de la part du Seigneur Jésus seul. Une des raisons qui pousse les gens à rester dans le désespoir, c'est la confusion, c'est le trouble. Et les événements qui viennent de se passer sont encore là pour alimenter cette confusion dans nos esprits. Mais et le manque de repères qui est là aussi dans notre société, de plus en plus on est en train de prendre les commandements de la Bible et de les enlever un par un. Vous avez vu que dernièrement, ça devient maintenant interdit de pouvoir corriger son enfant de manière physique. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de cogner son enfant, et ça on est totalement opposé, mais le fait de le corriger. La Bible nous parle que c'est bon de châtier l'enfant, et pourtant on n'a plus le droit de le faire. Enfin, c'est en cours d'être voté. Et je prends que celui-là, mais les exemples, on en a à l'appel de tout ce que la Bible nous dit de faire et que cette société est en train de rayer. Et après, on s'étonne qu'il y a des troubles. Après, on s'étonne qu'il y a des manques de repères. On s'étonne qu'il y a de plus en plus de gens qui sont désespérés, qui sont dans la dépression, qui sont dans le suicide. Il y a une augmentation partout dans les sociétés occidentales. C'est pas que la France. Parce qu'on est en train de raser les repères qui viennent de la parole de Dieu. Et on est en train de mettre l'homme en avant. Mais l'homme est bien faible. L'homme est bien petit. Et s'il veut pouvoir être une bénédiction pour son prochain, il faut qu'il ait l'aide de son Seigneur. Alors bien sûr, on peut essayer de faire un peu de bien, et il y en a qui le font, mais à un moment donné, on est épuisé. À un moment donné, on n'en peut plus. Et on a besoin de retrouver cette espérance. L'espérance, elle se trouve dans le Seigneur. Quand le Seigneur nous parle de consolation, il le fait de manière solennelle, il le fait de manière émouvante. Dans Ésaïe chapitre 40, vous connaissez ce passage où Jésus, enfin le Dieu plutôt, dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, pas murmurez-lui, criez-lui. » Que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Connaissez ce passage? La consolation, Dieu est un Dieu de consolation, a ce désir que nous puissions retrouver l'espérance dans notre cœur en laissant le Saint-Esprit nous consoler. Jésus a dit à ses disciples, « Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. » Un autre consolateur, ça veut dire que Jésus, il en était un aussi. Jésus était un consolateur. Dans tout ce qu'il faisait, il était quelqu'un qui consolait les gens, qui apportait cette consolation divine et qui faisait jaillir dans le cœur des personnes l'espérance. La femme qui était là, qui était en train de prête à être lapidée parce qu'elle avait commis l'adultère, alors qu'elle était là toute seule, et celui avec qui elle avait commis l'adultère n'était pas là par contre. Tout le monde était contre elle. Et Jésus a donné une parole de grâce, une parole d'encouragement, va et ne pêche plus. Quelle parole avons-nous besoin d'entendre ce matin pour qu'il va venir encourager notre cœur? En tout cas, Siméon avait cette connexion avec Dieu de telle sorte qu'il a compris que Jésus, c'était pas n'importe quel un petit bébé comme les autres, mais c'était vraiment la consolation, celui qui allait apporter dans le cœur du peuple d'Israël et même des nations, on le voit dans ses paroles, la consolation. Et il donne trois choses. Jésus, c'est le salut que tu as préparé devant les peuples, ou pour le salut pour tous les peuples. Il avait déjà compris que c'était pas que Israël, pour tous les peuples. Et nous faisons partie de ces peuples qui ont besoin de recevoir le salut. Vous savez que quand on expérimente le salut, eh bien c'est une manière que Dieu a de nous consoler. Justement, dans ce passage d'Ésaïe, c'est ce qu'il est dit. « Dites à Jérusalem que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Quelle consolation il y a quand une âme est asservie et quand une âme est délivrée du péché, quand une âme est purifiée de son iniquité. C'est une consolation incroyable. C'est pas quelque chose où on essaie de se répéter qu'on est sauvé, mais c'est une assurance qu'il y a au fond de notre être qui est là, qui nous dit « Seigneur, merci ». Parce que je sais que maintenant je suis juste devant toi. Oh, je le mérite pas et je le mériterai jamais. Mais je suis justifié à cause du sang de Jésus. Et j'ai la vie nouvelle à cause de la résurrection du Seigneur. Dieu veut nous parler de cette chose-là. Il veut nous dire, oui, que notre péché est expié. Et quand on voit le processus dans ce passage d'Ésaïe, on voit qu'il y a toute une portion qui nous revient à nous. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Vous savez qu'en Orient, quand il y avait un roi qui allait dans un pays, il envoyait devant lui des émissaires qui étaient chargés de prendre la population des villes qui allaient être traversées et de leur demander de combler les trous. S'il y avait des trous sur la route, ils devaient combler. S'il y avait des petites collines qui étaient là, ils devaient les raser. Voilà ce qu'ils devaient faire. Et vous savez que ce texte, il nous parle de manière prophétique de Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du roi des rois, Jésus-Christ, le roi des rois, et celui qui doit venir. Mais pour qu'il puisse venir dans nos cœurs, il faut que nous préparions le chemin de l'Éternel dans notre cœur. Est-ce que dans notre vie, est-ce que dans notre être, il n'y a pas des hauts et des bas, justement, des endroits où on est trop haut parce qu'on a une trop haute opinion de nous, des endroits où on est plein d'orgueil, des endroits où on a plein d'assurance, mais de la mauvaise, de l'arrogance. On a besoin de raser ça par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre vie des endroits où on se dévalorise, des choses qui sont honteuses, qui sont cachées, qui sont en bas? Et on a besoin de les couvrir de la grâce et de la paix et du pardon du Seigneur. Et cela permet au Seigneur Jésus de se manifester dans notre vie. Et ce matin, si vous voulez recevoir l'espérance, si vous voulez recevoir l'espoir qui vient de Jésus, vous avez besoin d'être consolé déjà par rapport à ce salut que le Seigneur nous offre. C'est en espérance, nous dit la parole, que nous sommes sauvés. Il y a un lien entre le salut et l'espérance, un lien indéniable. Et certaines fois, je lisais cela dans un livre, certaines fois dans les églises, on voit des gens qui sont touchés par le Seigneur, convaincus de péché, qui sont là, ils sont mal à l'aise, ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs, mais ils sont encore à ce stade, ils vont pas plus loin. Ils sont travaillés par le Saint-Esprit. Et donc ils sont dérangés à chaque fois que la parole est annoncée, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Mais ils n'ont pas encore fléchi le genou devant le Seigneur. On en a vu des personnes comme ça. Et merci Seigneur que ça se passe. Mais des fois, on est tellement content que ça se passe ces choses-là qu'on s'empresse de leur dire qu'ils sont sauvés. On s'empresse de leur dire que ça y est, c'est bon, ils sont devenus chrétiens. Mais il vaut mieux que l'espérance, elle naisse d'elle-même dans le cœur. Parce que trop souvent, c'est des choses qui sont prématurées. Et les gens ne vont pas au fond des choses quand on leur dit « C'est bon, tu es chrétien, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. » Des fois, on a besoin de laisser le temps au Saint-Esprit de faire son œuvre dans notre cœur. Et justement, ce pasteur, il connaissait une personne qui venait à son église, mais dont la conduite était hypocrite. Elle venait à l'église le dimanche, mais la semaine, elle faisait n'importe quoi. Et elle, sa conduite le disait, mais elle avait avoué plus tard que c'était la réalité. Et lors d'une mission, il y a eu une prédication particulière qui a touché son cœur. Elle était profondément convaincue de péché pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, elle a eu l'espoir qu'elle était convertie. Alors elle va chez ce pasteur. Et lui, ce qu'il a fait, il a vraiment laissé le Saint-Esprit le conduire. Il a dit, je lui ai déversé la vérité sur son cœur avec force, de telle sorte que j'ai détruit toutes ses fausses espérances. Et cette personne, elle est repartie avec encore plus de conviction de péché et encore plus de tristesse. Et pendant plusieurs jours, et puis à nouveau, elle est revenue, elle pensait que là, cette fois-ci, c'était bon. Elle revient, le pasteur il recommence la même chose. Il lui lit les versets de la Bible, il lit ceci, cela, voici ce que dit la Bible. Il était tranchant, il a utilisé la Bible comme cette épée qui tranche. Mais il savait qu'elle en avait besoin, cette personne, parce qu'il la connaissait, connaissait son caractère. Et puis, cette personne est partie, et l'Esprit de Dieu a sondé si profondément son cœur, que pendant plusieurs jours, elle avait même plus aucune force physique. Elle était là, allongée sur son lit. Mais l'Esprit de Dieu agissait. Et quand elle s'est relevée, et qu'elle est allée voir le pasteur, il a vu que sa physionomie même avait changé. Elle qui était tellement, avec un caractère fort, elle était devenue une profonde humilité. Et c'était une des plus modestes, une des plus douces et une des plus aimables chrétiennes qu'il ait jamais connue par la suite. Parce qu'il a laissé l'œuvre de Dieu se faire. Et qu'il n'a pas dit de manière prématurée, c'est bon, vous êtes chrétien, c'est bon, allez, venez, inscrivez-vous, on vous donne la carte à l'église, venez vous faire baptiser. Non, laissons le Saint-Esprit faire l'œuvre dans le cœur des personnes. Afin que ça soit une conviction qui vienne d'eux-mêmes, c'est pas à nous de convaincre. C'est au Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Et ce matin, nous avons besoin de laisser le Seigneur nous conduire. Quand on voit l'exemple de Siméon, on se rend compte que c'était un homme qui était conduit, animé par le Saint-Esprit. Mais il parle de Jésus qui est le salut, il parle de Jésus qui est la lumière. Le salut, ça nous parle de l'endroit où nous savons d'où nous venons. Nous avons besoin de certitude, savoir d'où nous venons. Nous avons besoin de savoir où nous sommes aujourd'hui. Et la lumière du Seigneur, la lumière de sa parole, nous permet de savoir où marcher. Vous connaissez par cœur ces versets qui nous dit « Ta parole est une lumière sur mon sentier ». Hein? Vous le connaissez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que jour après jour, je veux prendre la parole de Dieu pour qu'il me dirige sur le sentier de la vie. Des fois, on voit des gens qui viennent à l'église et puis qui après n'ont aucun attachement pour la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils viennent à l'église, ils ont une lumière qui brille le dimanche. Et le reste de la semaine, mais il marche dans les ténèbres. Mais Jésus est celui qui veut nous donner l'espérance avec sa lumière qui brille dans sa parole. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne qui ? Les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole de Dieu, la lumière, la parole de Dieu procure en nous l'espérance. On n'essaye pas de s'auto-persuader qu'on espère. Non, on sait qu'on espère. On sait qu'on a une conviction par rapport à là où nous en sommes parce que nous lisons la parole de Dieu et nous laissons faire son œuvre dans notre cœur. Ne gardons pas, frères et sœurs, de zones d'ombre. Trop souvent, c'est ce qui se passe. Il y a des zones d'ombre dans notre vie où on dit, Seigneur, je veux. Tu brilles partout, sauf dans cet endroit-là, ça c'est personnel. Non, le Seigneur est notre roi. Toute notre vie est à lui. On n'a pas le droit de garder quoi que ce soit pour nous. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un roi méchant, hein, c'est pas un dictateur. C'est un roi plein d'amour, plein d'humilité, plein de compassion. Et toutes nos défaillances, il veut nous aider à les combattre et nous aider à en être vainqueurs. Troisième chose qu'il nous dit Siméon, c'est qu'il nous parle de cette gloire. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous sommes, nous savons où c'est que nous allons. Oui, en Christ, Christ en nous, l'espérance de quoi ? De la gloire. Christ dans notre cœur fait que nous avons cette assurance que même s'il y a un attentat qui se produisait dans cette église, on prie que ça arrive jamais, mais si ça se produisait, eh ben on a une espérance dans notre cœur. On sait où c'est qu'on va. On n'est pas tremblant, on n'est pas apeuré, mais on sait que le Seigneur va nous prendre avec lui. Et on croit que le Seigneur Jésus, quand il dit quelque chose, eh ben il est fidèle dans sa parole. Regardez cet homme Siméon. L'espérance de Siméon se traduit par ce comportement, une vie juste et intègre. Est-ce que vous avez une vie juste et intègre ? Vous n'êtes pas convaincu. Mais combien c'est important d'avoir une vie juste et intègre ? Vous savez, des fois, certains, on leur rend trop de monnaie, et au lieu d'aller régler la somme et de dire « Excusez-moi, madame la caissière, vous m'avez rendu trop d'argent », il y en a qui dit « Alléluia, le Seigneur m'a béni aujourd'hui ». Non, mais ça, c'est pas l'intégrité, ça. Ça veut dire qu'on a trompé. Le Seigneur, il est honoré quand on choisit de retourner et de dire, Madame la caissière, je vous donne cette somme, vous m'avez donné trop d'argent. Et croyez que quand vous faites ça, le Seigneur, il manifeste sa faveur dans votre vie. L'Esprit était sur lui. Est-ce que vous avez soif du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit est en vous? Si oui, alors est-ce que vous avez soif encore plus du Saint-Esprit dans votre cœur? Est-ce que vous êtes conduit, dirigé par le Saint-Esprit? Je me souviens de ce temps où je suis allé voir un jeune homme et je voyais que c'était un jeune homme qui était tout timide. Alors ça m'a touché parce que moi j'étais très timide aussi. Je suis allé le voir et quand il parle, il a du mal à s'exprimer et il est très timide, très réservé. Mais par contre, il a un cœur de prière. Et le Seigneur m'a montré, et je suis allé le voir pour ça, je lui ai dit, le Seigneur veut se servir de toi. Parce qu'il m'a montré que quand tu priais, tu étais en train de bénir tous les autres jeunes qui étaient là autour de toi. Et je lui ai dit, sois fidèle dans la prière. Je ne lui ai dit pas parce que ça venait de moi, mais j'étais poussé par le Seigneur pour le faire. À l'encourager. Et vous savez, quand on est poussé par le Seigneur à faire certaines choses, des fois on résiste, mais quand on choisit de se soumettre, oh, je résiste un peu. Mais après, j'ai dit, bon, allez, on y va quand même. Le Seigneur a béni ce jeune homme. Et j'ai vu, il y a eu un appel par la suite, justement, et ce jeune homme, il priait, et je voyais des gens qui étaient baptisés dans Saint-Esprit, je voyais des gens qui étaient en train de se convertir, et je voyais qu'il y avait un résultat par rapport à ses prières, à lui, parce qu'il a peut-être pas beaucoup de qualités, mais en tout cas, il a appelé du Seigneur à faire cela. Poussé par le Saint-Esprit, nous sommes des gens qui amènent l'espoir. Nous recevons l'espoir du Seigneur, mais il nous le rend bien et il nous permet de le redonner aux autres. Et je voudrais lire ce deuxième passage et finir avec cela. Dans Luc chapitre 2, toujours, mais au verset 36, Siméon était dans cette attente, dans cette espérance de voir la consolation, mais on voit qu'il y a une autre dame qui était là aussi dans le temple et qui est venue voir Jésus, qui était tout petit, mais qui avait cette vision divine des choses, cette vision élargie. Luc chapitre 2 verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Est-ce que vous attendez la délivrance du Seigneur? Amen. C'est ce qu'on attend. Que le Seigneur vienne délivrer notre monde déjà qui a besoin de délivrance. Et un jour le Seigneur va venir juger et toutes les injustices qui ont été faites sur cette terre vont être jugées un jour. Nous avons cette espérance dans le Seigneur. Mais Jésus veut nous rappeler qu'il est le libérateur. Anne avait compris, avec d'autres qui étaient là autour, que Jésus était le libérateur. Celui qui est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il n'y a aucune épreuve dont le Seigneur ne puisse nous délivrer. C'est ça que nous avons besoin de comprendre. Et tous les mots que nous pouvons connaître ici-bas, qui sapent notre espérance. Il y en a des mots comme ça qui font mal, des blessures du passé, la peur de l'avenir, la crainte des hommes. On comprend ce que ça veut dire aujourd'hui, la crainte des hommes. La dépression, le stress, les pensées suicidaires, la maladie, les liens spirituels, les défauts de caractère, tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous emprisonner. Mais Jésus est puissant pour, dans toutes ces situations, nous délivrer. Parce qu'il est le puissant libérateur. Et la question que je veux vous poser, que je me pose à moi-même, de quelle délivrance avons-nous besoin ce matin? Je parle pas d'être délivré de liens démoniaques, c'est pas ça dont je parle, mais de ces épreuves qui sont là dans nos vies. Mais je crois que si on s'attend à Jésus, le libérateur, la délivrance d'Israël, il veut être notre délivrance à nous. Et il veut nous apporter cette espérance dans notre cœur. Que quelles que soient les situations, quels que soient les mouvements de ce monde qui tremblent, le Seigneur est celui qui nous apporte l'espérance. Parce qu'il est capable de nous aider à traverser tout cela. Regardez ce contexte. C'est un contexte où Anne, elle parle à beaucoup de gens qui attendaient la délivrance. Mais beaucoup sont restés passifs. Regardez comment Anne, elle, dans sa jeunesse, vous avez remarqué, 84 ans, est-ce que c'est jeune? 84 ans, dans sa jeunesse, cette dame, vous avez vu quel zèle elle manifestait pour le Seigneur. Quel attachement elle avait pour l'église, pour le temple à l'époque. Elle ne quittait pas le temple. J'ai fait une hypothèse, si elle s'était mariée à 20 ans, ça veut dire qu'elle est restée mariée pendant 7 ans. À 27 ans, son mari est mort. Et ça veut dire que depuis 27 ans jusqu'à 84, elle est restée dans l'église, tous les jours elle venait. Elle venait au temple et elle priait. Vous imaginez? Là, j'ai pris l'hypothèse de 20 ans, mais je pense que c'était même en dessous. C'est-à-dire qu'elle est restée encore plus de temps. Parce que cette femme attendait la délivrance. Et cette femme, non seulement elle voulait que les personnes qui sont autour d'elle soient délivrées, mais elle allait dans le temple pour prier, pour recevoir du Seigneur cette délivrance. Des fois, c'est pas nous qui avons besoin de délivrance, mais c'est les personnes qui nous entourent. N'y a-t-il pas dans votre famille, dans votre entourage, quelqu'un qui a besoin de délivrance? Si vous me dites non, mais moi je vous dis, moi j'en ai. Alors priez, joignez-vous avec moi dans la prière. Mais je suis sûr qu'il y en a aussi de chez vous. Prions les uns pour les autres, prions pour nos familles, et que le Seigneur puisse nous délivrer, que le Seigneur nous donne comme Anne cet attachement, parce que si nous voulons voir la délivrance, il faut qu'il y ait un attachement pour l'Église. C'est pas quelque chose qu'on met en pause dès qu'on franchit la porte, hop, mon attachement pour l'Église, il est en stand-by, et je le remets en lecture le dimanche matin quand je reviens dans l'Église. Non, ça dépend pas du lieu, mais tous les jours de ma vie, j'ai cet attachement pour l'Église, pour les frères et sœurs, et je pense à eux, à servir Dieu nuit et jour dans le jeûne, et dans la prière. Le seul service que l'on peut faire toute sa vie sans être gêné par l'âge, sans être gêné par la maladie, par quoi que ce soit, c'est la prière. Et d'ailleurs, n'importe quel service qui est fait sans prière, ça sert à rien. Parce qu'il n'a pas une portée spirituelle. Avant tout autre, et pour finir tout autre service, il faut prier le Seigneur. Anne nous le montre. Ce qu'elle faisait, elle priait, elle louait Dieu, elle montrait à Dieu sa reconnaissance. Louer Dieu, c'est bien sûr chanter des cantiques le dimanche matin, c'est lui rendre des actions de grâce par notre bouche, par nos prières d'actions de grâce, de reconnaissance. Mais c'est aussi dire à Dieu oui quand ça nous coûte. Seigneur, je te dis oui. Ça, tu vois, tu me demandes de faire ça. Seigneur, je te dis oui. Ça me fait mal, Seigneur, mais je te dis oui. C'est aussi dire non au péché. Vous savez, des fois, louer le Seigneur, c'est pas que chanter les cantiques, c'est des fois arrêter une conversation qui est remplie de critiques, remplie de jugements. Si vous êtes avec quelqu'un qui parle comme ça, ben vous, quand vous dites « je refuse », vous le faites de manière polie bien sûr, hein, de manière à ne pas choquer. Mais il y a un pasteur qui racontait ceci, c'est qu'il était à une table, c'était David Wilkerson, tiens, le pasteur. Il était à une table et puis il y avait des pasteurs de différentes origines. Et il commençait à parler. Il commençait à parler sur telle église, sur telle autre église, sur tel pasteur, et à montrer les défauts de celui-ci, de celui-là. Et cet homme, David Wilkerson, vous savez, quand on le connaissait personnellement, il n'était pas un grand bavard. Mais il s'est levé, il a dit « Excusez-moi, je m'en vais ». Et il est parti tout simplement. Il avait un jeune traducteur qui était là avec lui, qui a dit « Moi, je dois le traduire, donc je m'en vais aussi ». Il a profité de l'occasion et... Et quand il a parlé avec ce jeune traducteur, pasteur aussi, il lui a dit « Je ne veux qu'il n'y ait rien qui vienne entacher ma communion avec le Seigneur. Je ne voulais pas choquer les frères, mais je veux que rien ne vienne entacher ma communion. Je veux qu'il n'y ait rien qui vienne m'enlever l'espérance, les convictions que j'ai dans mon cœur pour le Seigneur. » Alors je préférais partir. Des fois, quand on dit non à certaines choses, on est en train de louer Dieu. C'est la plus belle louange qu'on peut faire au Seigneur quand on fait cela. Et Anne était dans cet état d'esprit de louer Dieu. Elle était dans cet état d'esprit de parler de Jésus. Il y a un jeune homme, je finis. Je vous ai dit, c'est le dernier passage, mais je vous donne cette dernière anecdote pour vous montrer que c'est important de parler du Seigneur. Un jeune homme qui, il y a quelques semaines en arrière, il priait, il disait « Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. » Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je voudrais tellement parler de toi. Tu vois, je suis timide, tu sais pas comment faire. Aide-moi aujourd'hui à avoir l'occasion de le faire. Et ce jeune homme, alors qu'il était étudiant sur Toulouse, il a voulu rentrer chez lui. Problème, d'habitude, il prend le train. Et ce week-end-là, c'est il y a quelques semaines en arrière, donc il y avait grève de train partout. Et là, à sa destination, il n'y avait aucun train qui partait de Toulouse. Alors il était là, mais comment je vais faire? Et puis il a dit, bon, mais je vais regarder sur Blablacar, je fais pas de pub, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et donc il arrive, il a mis en communication avec une jeune dame qui est là, qui justement allait au même endroit. L'heure c'était parfait, donc ils se sont donné rendez-vous, et il était là dans la voiture, ils ont parlé de choses et d'autres, et puis à un moment donné, la porte s'est ouverte, et il a pu témoigner à cette dame qu'il appartenait au Seigneur Jésus, qui croyait qu'il avait la foi en Dieu, que Jésus était son espérance. Si dans ce monde il y a tout qui était dans la confusion, Jésus est celui qui nous donne cette assurance. Et quand il est sorti de cet entretien, je crois même qu'il lui a pu lui offrir une Bible, quand il est sorti de cet entretien, il a béni le Seigneur. Parce qu'il a compris que quand on demande, quand on a à cœur, quand on prie pour que le Seigneur nous aide à parler de lui autour de nous, ben le Seigneur, il le fait tout simplement. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que souvent, on ne demande pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou alors, vous demandez mal, nous dit l'apôtre Jacques. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui parlent. Alors, on ne veut pas être des prosélytes qui essaient de convaincre que les gens viennent dans notre religion, c'est pas ça. On veut parler que Jésus est l'espoir. Que les gens viennent ici, que les gens aillent ailleurs. C'est pas ça notre problème. Ça, c'est le problème du Seigneur et leur problème avec Dieu. Mais notre souci, c'est que ces personnes puissent entendre que Jésus est le vrai espoir, celui qui apporte la consolation, celui qui apporte la délivrance, celui qui veut nous aider à nous remplir de son esprit pour que nous soyons ses témoins. On va fermer les yeux.